Audrey Hensler est doctorante en études anglophones au laboratoire Emma à l'Université de Montpellier III. Elle travaille sous une direction de thèse prestigieuse avec Monica Michelin et Sarah Atchwell à une thèse sur les enjeux politiques, sociaux et esthétiques des scènes de coming out dans les séries télévisées américaines. Et parallèlement, parce qu'elle n'est pas assez occupée, elle est aussi ATER à l'Université du Havre-Normandie, donc elle traverse la France, manifestement, où elle enseigne la sémiologie littéraire et la civilisation américaine. Donc Audrey, c'est à vous.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer ma présentation par une courte introduction sur le lien entre visibilité et normalisation qui va permettre, j'espère, de comprendre dans quelle lecture j'inscris mon analyse, ou du moins la première partie. Certains universitaires, mais aussi des journalistes ou certains organismes avancent qu'une plus grande représentation d'une minorité contribue à une plus grande visibilité et partant de là à une normalisation. C'est le postulat de départ, par exemple, d'une association comme GLAAD, qui est donc un acronyme pour Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui œuvre pour une plus grande et une meilleure visibilité des minorités dans les médias. De nombreux chercheurs se sont attelés à prouver que la représentation de minorités s'accompagne d'un changement social ou d'une évolution des mentalités, qu'il s'agisse de spécialistes des médias, et je pense notamment à un ouvrage de Roger Straitmatter, mais c'est aussi le postulat de base de nombreux ouvrages de chercheurs en médias ou de chercheurs en psychologie cognitive. Et là, je pense notamment aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Edouard Chiappa, et qui a développé une hypothèse qu'il appelle l'hypothèse du contact parasocial pour expliquer comment une exposition à des représentations positives des personnages LGBTQ+, dans les médias, est liée à une attitude positive sur l'homosexualité. C'est selon cette première lecture qu'on célèbre et qu'on accueille avec enthousiasme l'apparition de personnages LGBT à la télévision américaine à partir des années 60-70. Le premier exemple qu'on cite assez fréquemment, c'est une sitcom qui s'appelait All in the Family, qui était diffusée dans les années en 1967, en particulier pour l'épisode, le premier épisode qui présente un personnage homosexuel. J'en parlerai pas plus avant, tout simplement, puisque ça ne présente pas à proprement parler de coming out. Dans ces années-là, donc à partir des années 70, la question LGBT est abordée d'abord principalement par une approche médicale. Je me permets de rappeler à toute fin utile que l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale aux États-Unis jusqu'en 1973. Mais rapidement, différents genres s'emparent du sujet de l'homosexualité. Le coming out s'impose alors comme l'arc narratif le plus propice au traitement de l'identité homosexuelle. Par exemple, dans les années 70-80, quasiment toutes les séries policières travaillent la question du coming out d'un policier, d'un détective ou d'un personnage plus secondaire. Souvent, les séries de l'époque qui traitent de l'homosexualité font partie de la catégorie de ce qu'on appelle des procedurals, qui sont donc des séries qui présentent des arcs narratifs qui se cantonnent à un seul épisode. Dans ces cas-là, le personnage est souvent un personnage secondaire qui n'apparaît que le temps d'un épisode et l'arc narratif qui est ouvert par l'annonce ou par la découverte de son homosexualité est résolu au terme de ce même épisode. Plus tard, à la fin des années 80, les soaps s'emparent de la question et leur formule feuilletonnante permet d'exploiter un peu plus longuement le coming out et ses conséquences. Là encore, néanmoins, les personnages LGBT, et quand je dis les personnages LGBT, en réalité, il s'agit essentiellement d'hommes gays, étant donné que les femmes lesbiennes sont très peu visibles encore à la télévision à ce moment-là, sans même parler d'intersexualité ou de transidentité. À ce moment-là, les personnages sont encore des personnages secondaires dont le coming out est souvent traité comme un prétexte pour le développement de l'intrigue ou du personnage principal. Ce qui va marquer un tournant dans le traitement qui est fait de l'homosexualité à l'écran et particulièrement du coming out, c'est le coming out d'Hélène dans une série qui s'appelle également Hélène et qui est incarnée par Hélène DeGeneres en 1997. L'arc narratif du coming out d'Hélène, qui survient au cours de la quatrième saison de la série, a été travaillé par la chaîne, donc par ABC, des mois en avance, et couvre l'intégralité de la saison avec des indices diégétiques qui apparaissent dès le premier épisode de la saison 4, mais aussi tout un travail de marketing et de promotion avec des interviews, des teasings du coming out à venir. Ce travail-là culmine avec le coming out combiné du personnage d'Ellen Morgan, donc dans la sitcom, et celui de l'actrice Ellen DeGeneres, à la fois sur le plateau de Oprah et dans le Time. On a cette première scène de coming out donc dans le micro de l'aéroport par accident, qui rend bien compte finalement de l'envergure et de l'importance de ce coming out, et montre aussi une part de réflexivité, un jeu de la part des créateurs de la série. La nouveauté de ce traitement-là, du coming out par rapport à ceux qui ont précédé, elle réside dans plusieurs facteurs. Le premier, c'est que le coming out est travaillé sur une saison entière, donc à partir du premier épisode de la saison 4, comme je l'ai dit. La deuxième, c'est que pour la première fois, il concerne le personnage principal d'une série et non pas un personnage secondaire. Et la troisième, c'est qu'il survient au cours donc, de la quatrième saison, au terme de quatre saisons pendant lesquelles les audiences ont pu s'attacher au personnage d'Hélène Morgan. Ce coming out d'envergure, qui a été donc extrêmement médiatisé, ouvre la voie à ce qui va demeurer pendant les 10 années qui suivent le mode de représentation privilégié de l'homosexualité à la télévision. On peut se demander à ce moment-là pourquoi ce recours quasi systématique au coming out quand on aborde la question de l'homosexualité. D'un point de vue de la représentation, d'abord, si le coming out connaît un succès aussi franc, c'est qu'on assiste à partir des années 70, sous l'impulsion des mouvements pour les droits des homosexuels aux États-Unis, à un processus de construction identitaire d'une communauté qui se cherche une histoire, une culture et des références communes, des expériences fondatrices. Or, le coming out est souvent envisagé comme une expérience commune à tous les LGBTQ, une forme de rite de passage qui marque l'entrée dans la communauté. C'est d'ailleurs le premier sens du terme, si on en croit l'historien George Chauncey. Et la télévision n'est ni le premier ni le seul médium à s'appuyer majoritairement sur ce processus du coming out pour raconter l'homosexualité, puisqu'on retrouve le même trope dans les récits littéraires, qu'ils soient autobiographiques ou fictionnels. Et là, je vous renvoie vers un ouvrage d'Esther Saxy qui s'appelle « Homoplot ». Pour les producteurs, de l'autre côté, ça représente aussi évidemment un intérêt narratologique qui est non négligeable. En effet, le processus du coming out s'accompagne souvent d'une forme de conflit qui est lié à l'acceptation ou plutôt à la non-acceptation des proches, mais aussi parfois à une forme d'homophobie internalisée du personnage. Et ce conflit doit être résolu et offre donc de nombreuses possibilités narratives. Après Hélène, le coming out devient un arc narratif à part entière, qui n'est plus cantonné aux bornes d'un seul épisode, mais peut occuper plusieurs épisodes, voire une saison entière. Il permet même parfois, si vous me pardonnez l'expression, de relancer la machine pour des séries qui seraient en chute d'audience. C'était le cas notamment pour Hélène. Ça a aussi été le cas pour le personnage de Tim Bayliss dans Homicide: Life on the Streets, qui était diffusé sur NBC, ou pour le Dr. Hancock dans Chicago Hope de CBS. J'en arrive donc à ma problématique, puisqu'il s'agit de s'interroger aujourd'hui sur la question de l'étendue normalisation et normativité de la question LGBT dans les séries américaines. Je voulais m'interroger sur la valeur du coming out en tant qu'outil de normalisation de l'homosexualité à la télévision. Le premier processus de normalisation dans le coming out, il vient du fait que le coming out revêt intrinsèquement un aspect didactique pour les personnages qui reçoivent le coming out donc dans la série, mais aussi par extension pour des publics qui sont majoritairement hétérosexuels. En tant que spectateur, d'abord, on a souvent l'occasion de suivre, avant même que l'homosexualité du personnage soit révélée aux autres personnages le cheminement intérieur qui mène à l'acceptation de l'homosexualité. Ce développement, il est évidemment facilité par la forme sérielle qui permet d'exploiter sur le long terme les négociations de l'espace du placard, les refus ou les obstacles que rencontre le personnage dans sa quête d'identité. Comme c'est le cas par exemple d'Hélène donc, qui a travaillé le coming out sur une très longue saison. Lorsque le personnage est prêt à annoncer son homosexualité, le dialogue se présente bien souvent sous forme de questions-réponses qui permettent de répondre aux interrogations fréquentes de l'entourage, mais aussi du public. Ce mode de questions-réponses, je voulais aussi souligner le fait que dans ces cas-là, c'est souvent le personnage concerné qui détient l'autorité de répondre à ces questions, aux questions de l'entourage, mais aussi par extension aux questions que pourrait se poser le public, là notamment sur la transidentité. Ces questions, qui sont d'ailleurs bien souvent stéréotypées, sont par ailleurs souvent tournées en dérision, notamment par des rires enregistrés ou les réactions outrées d'autres personnages, ce qui contribue à, encore une fois, présenter l'homosexualité comme étant normale et comme n'étant pas la cause d'un traumatisme dans l'enfance quelconque. Et là, je reviens au coming out d'Hélène, cette fois à ses parents. Donc là, encore une fois, ce mode des questions-réponses avec des questions qui sont très classiques, enfin très stéréotypées, et donc qui font apparaître finalement les parents comme un peu réactionnaires ou du moins ne comprenant pas grand-chose à cette histoire d'homosexualité. Ce processus de questions-réponses, il est si fréquemment utilisé qu'on en vient à l'utiliser pour toute procédure de révélation d'une identité secrète ou placardisée. Souvent de manière réflexive ou humoristique, comme c'est le cas dans le prochain extrait que je voulais vous montrer, qui est très rapide, qui est un extrait de Buffy contre les vampires, où Buffy a annoncé à sa mère qu'elle était chasseuse de vampires. I'll take her out of the country. You'll never hear from us again. I bloody well hope. Fine. Get back to the mansion, make sure Giles is all right. I mean, have you tried not being a slayer? Mom. Voilà, donc questions stéréotypées qui sont réutilisées même dans le cas où il n'est pas à proprement parler question ici d'homosexualité, mais on pourrait avancer d'une identité un peu queer. Certaines séries vont plus loin dans leur visée normalisatrice parce qu'elles font tenir au personnage concerné directement un discours qui affirme que l'homosexualité est normale. Voilà, donc dans la bouche du personnage concerné directement, une affirmation de la normalité, malgré ou bien que homosexuelle. La dernière chose que je voulais aborder dans la normalisation de l'identité LGBTQ+, par ce trope du coming out, relève de la question du positionnement des audiences. Les personnages dans les séries qui n'acceptent pas l'homosexualité de leurs proches sont souvent présentés comme les antagonistes. Ils sont représentés de manière généralement négative, on les montre réactionnaires, ridicules, ou on les qualifie de bigots, par exemple. La conséquence directe de ce procédé, c'est que le public comprend de quel côté il doit s'aligner, et qu'il doit donc s'aligner sur les personnages qui font preuve de tolérance envers l'homosexualité. La conclusion de cette première partie, c'est que l'intérêt du coming out réside principalement dans son aspect didactique qui permet de sensibiliser les publics. En cela, c'est un instrument privilégié de la visibilisation des personnages LGBT, un point sur lequel les activistes assimilationnistes ne se sont d'ailleurs pas trompés, puisque, comme le dit George Chauncey, qui est donc historien, une des tactiques du mouvement de libération homosexuelle américain fut son insistance sur l'importance pour les gays de se révéler, donc to come out, au monde hétérosexuel. La deuxième partie que je voudrais aborder dans cette présentation, puisqu'il s'agit de parler de normalisation mais aussi de normativité, c'est les critiques queer qu'on peut faire de ce recours quasi systématique au processus de coming out. Parallèlement au mouvement dit assimilationniste, qui prône donc une normalisation de l'identité LGBT, on voit se développer, à partir des années 90, le mouvement queer qui critique cette volonté assimilationniste. Pour les défenseurs d'une position queer, la reconnaissance d'une normalité des relations lesbiennes ou gays représente une concession au régime de l'hétéronormativité et s'inscrit dans un régime hétéropatriarcal. Les activistes queer vont parfois jusqu'à lutter contre toute velléité assimilationniste, par exemple en s'opposant à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Cette position queer, ce n'est évidemment pas celle que l'on retrouve la plus fréquemment représentée dans les médias et à la télévision, qui se fait généralement le premier véhicule des discours assimilationnistes aux dépens de cette critique queer. Ce que je voudrais donc essayer de montrer maintenant, c'est comment le coming out s'inscrit dans un mouvement qui contribue parfois à renforcer la norme, et en particulier l'hétéronorme et les normes de genre, plutôt qu'à les interroger ou à les mettre en danger. Le coming out s'accompagne souvent, comme pour adoucir l'impact de l'annonce d'une sexualité hors norme, d'un renforcement de valeurs hétéronormatives telles que la famille, la monogamie, la stabilité, qui participent alors à la fois à un processus de normalisation et de normativité de l'homosexualité. De cette manière, on retrouve souvent des aspirations hétéronormatives exprimées par les personnages au moment même de leur coming out. C'est la volonté de se marier, qui est quand même une institution hétéronormative, qui pousse les personnages au coming out. Le problème de cette représentation ou la critique qu'on peut lui faire, ça n'est pas bien évidemment qu'un homme ou une femme gay ou lesbienne puisse avoir envie de se marier, de fonder une famille, etc. Mais c'est que ce processus du coming out a tendance à généraliser cette représentation au seul mode finalement de représentation de l'homosexualité, sauf à de rares exceptions sur des chaînes câblées. Je pense à Queer as Folk ou The L Word, notamment, où, j'aurais pas le temps de m'étendre là-dessus, mais où le terme de coming out n'a pas le même sens dans The L Word, notamment. De manière assez significative, dans cette même idée d'hétéronormativité, dans Six Feet Under, l'arc du coming out de David le présente comme un homme bien sous tout rapport, conforme aux normes, conforme aux codes sociaux. Et plus tard dans la série, lorsqu'on va dépasser ce premier arc narratif du coming out, il performera une masculinité et une homosexualité beaucoup plus queer. La seconde critique que je voudrais aborder concerne l'effacement quasi systématique de la sexualité qui s'effectue par le recours à l'intrigue du coming out. Ce qui fait l'aspect proprement queer de l'identité LGBT, ce qui fait sa différence avec l'hétérosexualité, est effacé des écrans. La focalisation sur le processus de coming out, qui est souvent présenté comme un pur processus identitaire, permet de passer sous silence et d'invisibiliser la sexualité des personnages. Je pense notamment au personnage de James McPhee dans Dawson's Creek, ou Dawson en français, qui dévoile son homosexualité au cours de la deuxième saison, mais qui n'aura pas de petite amie avant la saison 4, et encore très timidement, dans une série qui traite de manière assez frontale la question des relations amoureuses et sexuelles chez les adolescents. Cette invisibilisation de la sexualité des personnages LGBT a pour conséquence de les présenter comme des hétérosexuels comme les autres. C'est une expression de Susanna Danuta Walters. Et donc, on a donc d'une part une normalisation, parce que le coming out rend le personnage compréhensible pour des publics hétérosexuels, mais aussi normativité, parce que effacement de la différence, de ce qui déroge à la norme. Le dernier point que je voulais aborder relativement à la question de normativité porte sur le renforcement, lors du recours au récit de coming out, des normes de genre. De manière assez surprenante, même les séries qui ont pu être saluées pour leur représentation non stéréotypée de la masculinité gay ont pu tomber dans le travers de la féminisation à outrance dès qu'il s'agit de traiter du coming out d'un personnage. Je voulais finir sur une remarque sur l'évolution de ces dernières années. De manière assez intéressante, et particulièrement sur les chaînes du câble ou sur Netflix, on voit apparaître ces dernières années des séries qui traitent du coming out et qui abordent plus frontalement la question de la sexualité dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui est incluse dans le processus même du coming out. Après les années 2000, où on s'est beaucoup concentré sur la représentation de coming out chez les adolescents, on assiste depuis 2015 environ à une vague de coming out de seniors. Je pense à Grace and Frankie, Transparent, mais aussi la série Girls, où le père de Anna fait son coming out alors qu'il a 50-60 ans. Ces coming out qui arrivent plus tardivement dans la vie des personnages permettent peut-être d'aborder l'homosexualité de manière plus queer en démontrant justement une certaine fluidité des sexualités. De manière significative, on retrouve dans ces coming out les mêmes procédés, donc par exemple les questions-réponses des proches, mais en abordant moins la question de l'identité et plus celle de la sexualité.